Bonjour à tous et bienvenue sur RDL 103.5. Aujourd'hui, je suis avec Roman.
Coucou.
Yann.
Bonjour à tous et à toutes.
Et Sybille. Donc, on va vous parler aujourd'hui des tenues extravagantes de Lady Gaga. Et on va vous terminer par un petit débat.
Stéphanie Joanne Angelina Germanotta est née le 28 mars 1986. Malgré des premiers pas difficiles, elle rencontre vite le succès, avec son single Just Dance. Dès le début du succès, elle porte des tenues extravagantes qui feront sa marque de fabrique. Nous allons vous en présenter quelques-unes.
Marie-Antoinette version Pierrot pour les Brit Awards 2010. Elle porte une perruque imposante blonde et une robe avec trois couches de tissu blanc superposées. Une arrivée saignante aux Video Music Awards 2010 à Los Angeles avec sa robe et son chaperon en viande, puis ses chaussures façon filet mignon qui ont choqué au passage la présentatrice végétarienne, Hélène DeGeneres.
Sa robe en coupole parabolique bordeaux pour capter les bonnes ondes sur son show des MTV Europe Music Awards en 2011.
En 2012, elle fit une apparition venue de l'espace pour présenter son parfum Fame avec une robe d'apparence peau de serpent, noire avec des épaulettes, un casque coquillage doré et des chaussures noires à talons d'une dizaine de centimètres ornées de petites statuettes d'hommes dorés.
À New York en 2013, elle porte une combinaison intégrale en colon beige un peu transparent, ornée de roses rouges sur le torse et le haut de la jambe droite. Elle a un voile autour de la tête rouge et un tour du cou toujours rouge. Elle porte encore de grandes chaussures recouvertes d'un voile rose avec un flot rouge autour.
À Berlin, en octobre 2013, elle porte une robe manteau jaune foncé avec un gilet en ce qui s'apparentait à la peau d'un écureuil, pour la couleur. Et le plus marquant, c'est son masque très large en forme de botte de foin avec un bec d'aigle et de hauts talons noirs. Et pour finir, elle porte une tenue rouge en décembre 2013 avec un énorme col et une branche de sapin avec une étoile et des cheveux verts. Parce que, à l'approche des fêtes, rien de tel qu'un gaga de Noël. Donc on va passer au débat. J'ai une question pour toi, Sybille. Pour 100€, est-ce que tu porterais la robe en viande ?
Non, je porterais pas la robe en viande. Par contre, pour 100€, même si je devais payer 100€ ou 0, je sais pas, je porterais volontiers la robe d'extraterrestre.
Ah oui, à la Star Trek.
Star Wars un peu,
ouais,
Matrix.
Voilà. Ouais.
Oui. Ouais. Ou le cinquième élément, un truc comme ça.
Oui, la diva.
Ouais. Et toi, Roman, c'est quelle robe est-ce que t'aimes bien dans Slow ? Ou alors quelle est celle que tu détestes le moins, on va dire ?
Celle que je déteste le moins serait quand même celle, la robe manteau jaune foncé.
Ah oui. C'est vrai que c'est la moins extravagante, on va dire.
Avec un masque botte de foin quand même.
C'est vrai, aussi, il faut le dire.
Sans lui, oui.
Oui, c'est vrai, mais moi je trouve qu'elles sont sympas quand même. Hein.
Non, avec lui.
Oui, avec.
D'accord.
Oui.
Et toi, Yann, t'en penses quoi ?
Bah après, les gens qui peuvent aimer, bah après, personnellement, j'aime pas trop, mais après, si c'est des personnes qui aiment le tenue extravagante, hein, bah...
Laquelle tu détestes le moins ?
Celle que je déteste le moins, c'est avec le sapin de Noël.
Ah, et le sapin de Noël, vraiment magnifique.
Magnifique, c'est pas vraiment une robe, mais...
Pour les fêtes, écoute, hein.
Oui, au moins c'est thématique.
Ouais. Bon, bah, on va vous laisser avec Bad Romance de Lady Gaga. Et on vous dit à demain. Et il y a les autres groupes qui vont nous succéder.
À demain.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Roma, 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 Gaga, oulala, what you been romance? I want your leather studded.
Bonjour, on va vous parler de Deauville des Vosges et du réchauffement climatique avec mes partenaires Martin et Léa.
Le département des Vosges est né en 1790. La préfecture des Vosges se situe place Foch à Épinal. La ville de Plombières-les-Bains est une ville thermale située à une quinzaine de kilomètres de Remiremont. Chaque maison a en effet un balcon en fer forgé avec des formes et des motifs différents. Si vous examinez bien, sur certaines maisons, les initiales de l'ancien propriétaire sont inscrites dans un médaillon central. À Plombières-les-Bains, sous terre, l'eau bout à 100 degrés. Des sources de Plombières-les-Bains coule une eau presque bouillonnante. En effet, cette eau est très chaude et jaillit à 85 degrés. Si vous visitez Plombières en décembre, vous allez pouvoir flâner entre les chalets du féerique marché de Noël. Avec de magnifiques décors, lumière et animation, cet événement hivernal vous transporte dans une atmosphère digne des plus beaux contes. Le parc des miniatures, dans ce parc, vous allez vous transformer en géant. Des monuments d'Alsace et de Lorraine sont reproduits en miniature. En 1798, un glacier confiseur invente un dessert glacé aux œufs et aux fruits confits, préparé dans un moule en plomb et appelé Plombières. En 1882, un pâtissier de Plombières-les-Bains améliore la recette en faisant macérer les fruits dans le kirsch, un alcool aux cerises. Depuis, cette glace est une spécialité de la ville.
Saint-Dié-des-Vosges. À Saint-Dié-des-Vosges, vous visiterez une impressionnante cathédrale. Vous observerez un monde incroyable fait de trains miniatures et vous apprendrez sur la découverte de l'Amérique. Saint-Dié-des-Vosges a été détruite en 1944 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais les habitants ont reconstruit leur ville et même l'imposante cathédrale. Mais quand on parle des Vosges, on pense aussi aux forêts. L'intensification progressive du réchauffement climatique engage les agents de l'Office national des forêts et les propriétaires des forêts privées à adapter les futures plantations à des températures plus élevées et à stopper le développement de maladies sur les arbres. L'objectif étant de préserver une forêt d'exception où s'épanouit le chêne, roi des bois de l'Est vosgien. Une délégation d'ingénieurs hongrois en sylviculture avait fait le déplacement afin de profiter de l'expérience des spécialistes vosgiens.
Le réchauffement climatique aura des conséquences pour le massif des Vosges. La physionomie des Vosges sera profondément modifiée et durablement transformée dans les années et décennies à venir. Certains arbres vont disparaître, le pin des tourbières par exemple, et le sapin des Vosges est également menacé. C'est notamment la faute à des parasites venus du sud qui montent progressivement vers le nord et se multiplient. Le froid ne faisant plus office de barrière pour les arrêter. Il y a par exemple les scolytes. Ce sont des insectes dits ravageurs qui se nourrissent de bois et de la sève des épicéas. Les scolytes creusent des galeries sous l'écorce des épicéas vivants. Une fois infectés, les arbres résineux meurent. Si la présence des ravageurs est normale, la situation s'est intensifiée et est bien plus préoccupante que par le passé. Certains champignons, comme les rouilles des peupliers, infectent les feuilles des arbres. Mais les menaces s'accumulent. Par exemple, le puceron lanigère est apparu en Alsace en 2020. Il y aura donc moins d'arbres résineux. Ils laisseront leur place à des feuillus. Les espèces animales peuplant les Vosges seront elles aussi impactées par le réchauffement climatique. Le grand tétras, déjà très rare, pourrait disparaître du massif, car une fois mouillé, son plumage prend du temps pour sécher, d'autant plus si le temps reste humide. Cela peut déclencher des maladies. De plus, les couvées ne survivent pas lors des printemps pluvieux. Les insectes seront également impactés. Tout comme la chevêchette d'Europe, une petite chouette des montagnes. Les espèces de chauves-souris et des reptiles sont également menacées. Les reptiles risquent notamment de migrer au nord. Il y aura des printemps et des hivers plus humides. En hiver, le temps sera moins froid et sec. La neige se fera plus rare. Il y a aussi la menace des feux de forêt qui deviennent de plus en plus fréquents et des sécheresses. Alors, les épicéas et les sapins meurent en masse, frappés par le manque d'eau et la chaleur. Mais la crise n'est pas terminée, elle s'accélère et s'aggrave encore. Il faut donc immédiatement agir pour éviter la disparition du massif vosgien comme nous le connaissons.
Après la musique, le prochain groupe accueillera Barbaros Mutlu, adjoint au maire de Colmar chargé des sports.
In the ceiling, hey, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh sugar, how you get so fly? Oh sugar, sugar, how you get so fly? Oh sugar, how you get so fly? So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
Bonjour Lucie. Donc aujourd'hui nous accueillons Barbaros Mutlu en karatéka. Mais avant nous allons parler du karaté. Le karaté a été créé au 19e siècle par Gichin Funakachi En japonais, le karaté signifie main vide. Donc maintenant, on la va un peu séparer et on va laisser place aux questions après.
Alors, pourquoi avoir choisi le karaté ?
Ça a été un choix un peu naturel. Nous avons, avec mon frère, quand nous étions petits, pratiqué un certain nombre d'activités sportives. Nous avons démarré par la natation à l'âge de 3 ans, puis la gym.
D'autres activités comme le basket, comme d'autres sports collectifs. Et finalement, vers 9-10 ans, nous sommes restés au karaté. Le choix s'est fait très naturellement.
Quelle est la compétition qui vous a le plus marqué ?
Alors la compétition qui m'a le plus marqué, sans doute ma première médaille au championnat de France, j'avais 18 ans, et ensuite également la Coupe du Monde au Mexique, donc j'avais tout juste 18 ans, j'ai participé à la Coupe du Monde à Mexico, et j'arrive dans un pays que je ne connais pas, je termine 5e à cette compétition, et c'était une grande fête, on rencontre des athlètes d'autres pays, donc voilà, c'était un grand souvenir, finalement les premiers événements marquants de ma carrière de sportif de haut niveau.
Pourquoi avoir arrêté les compétitions ? Qu'est-ce qui vous a poussé ?
Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à arrêter ? Je crois qu'on a, en tant que sportif de haut niveau, tous envie de continuer de poursuivre sa carrière de sportif. Sauf qu'à un moment donné, on est rattrapé par l'âge, mais également les obligations professionnelles, les obligations familiales. On a un peu moins de temps pour s'entraîner. Et puis, ça faisait déjà quelques années que j'étais moi-même entraîneur de karaté. J'encadrais des plus jeunes. Et voilà, naturellement, on commence à se dire qu'il faut peut-être penser à l'après et arrêter de faire la compétition.
Et pourquoi avoir choisi d'être adjoint au maire ?
Alors, adjoint au maire, ça s'est fait finalement assez naturellement dans le cadre de mon implication associative et même dans le cadre de ma vie privée. Je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert vers les gens, j'aime aider les gens, j'aime réfléchir à trouver des solutions, à proposer des projets pour le plus grand nombre. Et c'est vrai que, chemin faisant, la fonction d'adjoint au maire en charge des sports et des loisirs, eh bien, est arrivée. C'est monsieur le maire, Eric Stroman, qui m'a proposé de l'accompagner dans cette aventure et de prendre en charge la thématique du sport. Et voilà pourquoi je suis maintenant, depuis un an, l'adjoint en charge des sports à Colmar.
Et est-ce qu'il y aura encore du karaté au JO 2024 ?
Alors malheureusement non. Le karaté a intégré les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 comme sport additionnel. D'ailleurs, je vous invite à suivre les karatékas de l'équipe de France. Ils vont démarrer cette nuit à 5h du matin avec Steven Dacosta, qui est un voisin, hein, qui est originaire de Pont-à-Mousson, à côté de Metz. Et ce sera malheureusement la seule et unique fois où nous serons olympiques cette année. Je l'espère, nous serons également, pourquoi pas, retenu en étant en sport additionnel en 2028, voire en 2032. Mais nous ne sommes pas retenus pour 2024 à Paris. C'est quand même une triste nouvelle, une désillusion. Mais voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Le Comité international olympique a retenu plutôt le hip-hop à la place du karaté, malheureusement.
Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dû faire un choix ? Par exemple, si vous ne saviez pas quoi faire, karaté ou médecin ?
Alors oui, je crois que, enfin, on fait des choix tous les jours, hein, dans sa vie, et mais c'est bien de le souligner. Effectivement, quand j'étais au collège ou au lycée, je me destinais, en tout cas, j'avais envie d'être médecin, de faire des études de médecine. Et puis, en étant sportif de haut niveau, les choses se sont faites un peu naturellement. Je me suis orienté vers des études universitaires en STAPS, donc ce sont les études qui permettent de devenir professeur d'EPS. Tels que les professeurs de PS que vous connaissez sans doute au sein de votre collège. Mais finalement, il ne m'a pas été imposé. J'ai choisi naturellement. J'ai souhaité rester dans le sport.
Et quand avez-vous commencé le karaté et les compétitions ?
Alors, j'ai commencé le karaté à l'âge de 9 ans. Et j'ai commencé mes premières compétitions à l'âge de 14 ans. Avant, il n'y avait pas encore de compétitions telles qu'on les connaît aujourd'hui dans différents sports. Et pourquoi je suis resté au karaté, j'avoue, sans doute que c'était une discipline qui me correspondait bien sur le cadre, sur la partie martiale, sur l'effort individuel aussi qu'on doit faire chacun, même si c'est un sport où on échange beaucoup avec les autres. C'est avant tout une discipline dans laquelle il faut s'éprouver soi-même, et sans doute que c'est pour cette raison que cette discipline me convenait le mieux et que j'y suis resté et que j'y ai fait mes armes.
Est-ce que vous étiez moniteur avant de devenir champion de karaté ?
Alors non, hein, j'ai commencé d'abord par faire mes premiers résultats en championnat de France, puis ensuite vainqueur de la Coupe d'Europe, troisième à la Coupe du Monde. Mais ce n'est que plus tard, vers quand j'avais une vingtaine d'années, que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et d'éducateur sportif, qui m'ont pleinement permis finalement d'encadrer des jeunes, des groupes, d'abord dans l'association dans laquelle je me trouvais, et ensuite, à l'âge de 23-24 ans, de créer ma propre association, mon propre club de karaté à Colmar.
Quelle est la fonction du comité départemental ?
Alors, je suis effectivement également président du comité départemental du Haut-Rhin, qui réunit quelques 75 clubs et 4500 licenciés dans tout le département du Haut-Rhin. Donc, il faut savoir que la Fédération française de karaté, c'est 250 000 pratiquants dans toute la France. C'est une grande fédération. Et en tant que président du comité du Haut-Rhin, je dois veiller à ce qu'il y a une forme d'harmonisation, d'homogénéité entre les pratiquants colmariens, sungoviens, mulhousiens, qu'il n'y ait pas de disparité. Et en ce sens, nous organisons les formations à destination des futurs encadrants, les examens des grades, les compétitions qui sont qualificatives pour les championnats de France, et aussi nous assurons la promotion du karaté à l'échelle du département. Un des enjeux notamment est de développer le karaté à l'école ou le karaté santé, hein, d'ouvrir le karaté vers des publics qui n'auraient jamais pratiqué.
Et qu'est-ce que vous pensez des Jeux Olympiques Tokyo 2020 ?
Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est une sacrée prouesse, hein, c'est vraiment d'organiser des Jeux Olympiques, d'accueillir 10 500 athlètes dans ce contexte pandémique, c'est quand même un exploit. C'est aussi le signe que les choses repartent, ça y est, nous allons dans le bon sens. Comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est aussi en quelque sorte une fierté, on va enfin voir le karaté à compter de cette nuit aux Jeux Olympiques. En même temps, c'est un peu triste parce que il n'y a pas de public, voire très peu, hein. Il y a certaines communes à côté de Tokyo qui peuvent accueillir un peu de public. Mais voilà, c'est une grande fête du sport, c'est un moment quand même, pour quand on est athlète, c'est le graal de toute compétition sportive, on a envie de pratiquer aux Jeux, on a envie de participer aux Jeux Olympiques, et donc c'est vraiment, voilà, et puis on suit, on va bien y regarder, même si on est, qu'on soit sportif ou pas, on suit les Jeux Olympiques à la télé, on voit que ce matin on a obtenu la 25e médaille olympique avec un couple en voile. Et j'espère qu'on aura encore, on vibre de toutes nos forces avec les émotions que nous procurent les champions. Donc j'espère qu'on aura encore d'autres médailles, et notamment en karaté.
Alors Barbaros, vous êtes moniteur de karaté. Quand vous travaillez, quand vous apprenez, vous préférez apprendre aux enfants, aux ados ou aux adultes ? Vous pensez que cela n'est pas du tout la même chose ?
Alors effectivement, c'est très différent, hein, accueillir et encadrer des tout petits, par exemple des 4-6 ans. Il faut déjà être relativement aguerri pour proposer des contenus éducatifs et pédagogiques à ces enfants. Mais ce qui est intéressant avec les tout-petits, c'est qu'ils sont surprenants, c'est qu'ils, à tout moment, ils sont imprévisibles. Donc il faut s'attendre, voilà, à des réactions auxquelles on n'est pas armé. Mais je n'ai pas de préférence. Moi, j'aime autant encadrer des tout-petits que des moyens, des adultes. C'est chaque fois différent. Et ce qui est important et intéressant à mes yeux, c'est qu'ils nous renvoient des choses. Le public qu'on encadre nous renvoie des choses, nous apprend des choses sur nous-mêmes, et ça nous permet, nous aussi, de progresser. Donc, c'est cette dimension-là qui m'intéresse en tant qu'entraîneur.
Quels sont les différents grades au karaté ?
Or, les grades au karaté, on les retrouve un peu dans toutes les disciplines martiales, hein, en judo, en taekwondo, mais on retrouve communément les couleurs de ceinture, de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire, blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron, noir. Et à partir de la ceinture noire, la distinction se fait par les dan, du premier dan jusqu'au dixième dan. Et en France, on peut passer l'examen jusqu'au septième dan. Et à l'issue du 7e Dan, si on veut encore progresser, c'est la Fédération française de karaté qui délivre le grade 8e ou 9e Dan pour un peu service rendu à la nation, pour toute l'action de développement qu'on a pu mettre en place pour le karaté français.
Vous êtes 6e Dan de karaté. Cela correspond à combien d'années d'entraînement ?
J'ai envie de dire une bonne trentaine d'années de pratique. Hein. J'ai commencé à 9 ans, j'ai 43 ans, ça fait 2 ans que je suis 6e Dan. Et oui, il faut bien 30 ans de pratique pour être 6e dan de karaté. Et puis le karaté, bah, c'est une école de vie. Je crois qu'on, quand on a commencé, on s'arrête jamais. Donc la prochaine étape, ce sera le 7e dan. Donc je dois encore attendre un certain nombre d'années. Il faut avoir 50 ans minimum pour prétendre au 7e dan. Mais voilà, c'est beaucoup de pratique, mais une fois qu'on est assidu, finalement, on n'en revient plus.
Le label Terre de Jeux 2024, qu'est-ce que c'est ?
Alors le label Terre de Jeux 2024, c'est une distinction que nous donne le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça permet à une ville comme la ville de Colmar de faire vivre la dynamique Paris 2024, donc jusqu'à l'échéance des Jeux, voire même après, et d'engager un maximum de monde dans cette dynamique, de créer des événements autour de Paris 2024. Et vous l'avez sans doute vu, nous avons organisé la journée olympique le 23 juin dernier et nous organiserons encore d'autres événements autour des Jeux olympiques.
Quels sont les centres de préparation retenus à Colmar pour les Jeux olympiques de 2024 ?
Alors à Colmar, nous avons le stadium où joue le club des SR Colmar qui est retenu, la salle d'escrime à la Val de Sloust, mais également la piste d'athlétisme du Stade Europe, sans aucun doute la salle de la Montagne Verte, la salle de gymnastique et centre de préparation des Jeux doit nous permettre d'accueillir des délégations qui viendraient préparer les Jeux Olympiques à Paris. Et on voit bien que le fait d'être centre de préparation des Jeux a commencé bien avant. Vous l'avez remarqué, il y a quelques jours, Romain Cannon, qui était encore licencié eh bien, à l'escrime à Colmar, a remporté la médaille d'or à l'épée. Et j'ai bon espoir, pourquoi pas, de le voir nous faire une petite visite en tant qu'ancien licencié colmarien. Donc, si c'est le cas, je vous en reparlerai prochainement.
Merci pour vos réponses très riches et on se retrouve pour demain.
Merci pour votre invitation, c'est très gentil. Merci pour le travail et pour l'accueil à la radio. Excellente journée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bah alors, sur la fin, il ne faut pas s'effondrer. Hein, mais...
Partir, souffrir, j'essaie de nous retenir. Courir, s'enfuir, je l'ai pas vu venir. Oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Salir, s'abstenir, plutôt mourir. Oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout.
Ce soir on va vivre, ce soir on va vivre.